Il y a le ciel, le soleil et la mer. Enfin, pas tout à fait. Il y a surtout le soleil dont notre vie sur Terre dépend et dont la lumière nous parvient en 8 minutes. Si vous ne me croyez pas, écoutez le tout premier épisode de Microsciences. Mais cela dit, et si le soleil s'éteignait d'un seul coup?
Alors effectivement, si le soleil s'éteignait brusquement, on le saurait 8 minutes plus tard. Mais ça n'arrivera pas parce que, en fait, le soleil ne peut pas s'éteindre brusquement.
Et cette bonne nouvelle nous est portée par Corinne Charbonnel. Elle est professeure au département d'astronomie de l'Université de Genève. Ou devrais-je plutôt dire Madame Soleil de l'Observatoire astronomique?
En fait, non, on est plusieurs à travailler sur le soleil. Je travaille sur les étoiles, effectivement, sur leur vie, leur évolution, parce que les étoiles, comme on va le voir, elles naissent, elles vivent et elles meurent. Je travaille aussi sur les éléments chimiques qu'elles produisent par réaction nucléaire dans leur cœur et comment les étoiles donc polluent la galaxie et amènent à l'enrichissement chimique de l'univers.
Eh oui, il faut beaucoup de scientifiques pour comprendre l'étoile la plus importante à nos yeux, en tout cas à mes yeux. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme nos petites questions du jour en grandes réponses scientifiques et héliocentriques. Microsciences, un podcast de la RTS. Bon, le soleil ne peut pas s'éteindre d'un seul coup. Moi, ça me rassure un peu. Mais pourquoi il ne peut pas s'éteindre d'un seul coup?
Parce que c'est une boule de gaz confinée par la gravité. Cette boule de gaz est très très chaude. C'est la raison pour laquelle le soleil rayonne, en fait. C'est à cause de sa chaleur que le soleil rayonne. Comme vous, vous rayonnez, en fait.
Oh, merci.
Vous êtes à une température de 37 degrés, donc vous rayonnez dans des très grandes longueurs d'onde, de la taille du micro-onde. Par contre, le soleil, lui, il va rayonner dans le jaune parce que sa température de surface est autour de 6000 degrés. Par contre, à l'intérieur du soleil, il fait beaucoup plus chaud. La raison pour laquelle il fait beaucoup plus chaud, c'est parce qu'en fait, la gravité essaye de contracter cette grosse boule de gaz, ce qui échauffe le centre du soleil. Donc on peut très facilement calculer, avec une équation assez simple, quelle est la température au centre du soleil, et on arrive à une température de 15 millions de degrés, et il y a des réactions nucléaires qui produisent de l'énergie et qui font que le soleil va vivre très très longtemps. Mais si on coupait ces réactions nucléaires brutalement au centre du soleil, on ne s'en rendrait pas compte avant 15 millions d'années, parce que la pression à l'intérieur du soleil est suffisante pour que le soleil continue à rayonner.
Tout ceci me paraît plutôt rassurant. En gros, le soleil brille, il va briller encore longtemps, parce qu'il mettra longtemps à se refroidir. Mais on va décortiquer tout cela. Et si on commençait par décortiquer le soleil?
Donc au centre du soleil, c'est là que se produisent les réactions nucléaires. Donc vous voyez, c'est vraiment dans le cœur de l'étoile. Et puis ensuite, il y a une grande zone, la zone radiative, où les photons se déplacent librement. Et à l'extérieur, on a une zone turbulente qu'on appelle la zone convective. Et à la surface, donc cette photosphère dont on mesure la température autour de 6000 degrés. Donc on a un fort gradient de température entre ces 15 millions de degrés au centre et la photosphère que l'on observe avec ces 6000 degrés en surface.
Cette boule de feu, mon soleil, mon étoile, s'éteindra quand même complètement à un moment. Je ne serai plus là pour voir comment ça va se passer. Le noyau d'hydrogène va bien finir par se consumer. Il va se passer quoi, au juste?
Il va y avoir plusieurs étapes. Quand au centre de l'étoile, donc c'est vraiment au centre que ces réactions nucléaires se produisent, parce que c'est là qu'il fait le plus chaud et que la pression est la plus grande, quand dans les régions centrales, tout l'hydrogène aura brûlé, on aura un noyau d'hélium. Et en fait, pour que l'hélium lui-même fournisse de l'énergie nucléaire, il faut des températures plus élevées. Il faut des températures de 80 millions de degrés à peu près. Et rappelez-vous que la gravité, elle va avoir un effet de contracter en fait le cœur de l'étoile. Quand on n'aura plus de réaction nucléaire, la gravité va reprendre le dessus et le cœur va à nouveau se contracter.
Et quand on contracte quelque chose, ça chauffe.
Donc dans une deuxième étape, le soleil va avoir les réactions nucléaires de combustion de l'hélium et va faire un petit cœur de carbone et d'oxygène. Ça va durer à peu près 10% de sa vie, en fait. Ça va durer à peu près 1 milliard d'années. Et ensuite, pour brûler le carbone et l'oxygène, il faut à nouveau se contracter. Mais dans le cas du Soleil, comme c'est une étoile de petite masse, on n'aura pas cet effet de contraction suffisant pour commencer à brûler le carbone et l'oxygène. Donc, en fait, l'étoile va s'arrêter là.
Le cœur, le noyau du Soleil sera mort.
Et dans les régions périphériques, on aura d'autres réactions nucléaires dans des couches qui vont faire que l'étoile, en fait, va se mettre à pulser et à produire d'autres éléments chimiques, ce qu'on appelle des éléments lourds. C'est-à-dire qu'il va y avoir des neutrons qui vont être libérés par certaines réactions nucléaires. Et ces neutrons, ils vont pouvoir interagir avec les noyaux de fer qui étaient présents quand l'étoile s'est formée. Et ces captures de neutrons sur le fer vont permettre de fabriquer des éléments beaucoup plus lourds du tableau périodique. L'étoile va se mettre à gonfler, va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Et cette géante rouge, elle va perdre beaucoup de matière pendant un certain temps. Cette perte de masse va complètement éplucher le cœur de carbone et d'oxygène. Et pendant un certain temps, on aura cette phase qu'on appelle de nébuleuse planétaire. Et ensuite, donc, une fois que cette matière est perdue, l'étoile va être juste la petite naine blanche qui va continuer à se contracter, mais à se refroidir dans un mode assez particulier qu'on appelle la dégénérescence électronique. Et donc, cette naine blanche n'aura plus de réaction de fusion nucléaire. Et l'étoile va simplement mourir de cette façon-là.
Et avant de mourir, notre Soleil aura répandu autour de lui des éléments chimiques, comme d'autres étoiles qui sont mortes avant lui. Les mêmes éléments chimiques que ceux qui nous constituent. Tout ce qui nous entoure, le sable, les cheveux dans les yeux, la cabane, le brin d'herbe, l'éléphant dans la savane, et même le chocolat, sont constitués d'atomes formés lors de l'explosion d'une étoile. Poussière d'étoile. Notre étoile mourra, mais je ne serai plus là pour porter son deuil. Mais si nous étions encore là, qu'est-ce que nous pourrions voir?
Ce sera assez joli, en fait, me semble-t-il.
Oh non, je vais rater ça!
Déjà, à la fin de la combustion de l'hydrogène, l'étoile va déjà pas mal gonfler. Ça va devenir déjà une belle géante rouge. Et on calcule à peu près que cette géante rouge, son rayon, va s'étendre à peu près jusqu'à l'orbite de Vénus. Donc, en fait, on verrait une très, très belle étoile, beaucoup plus rouge, donc beaucoup plus froide.
Le Soleil, peu avant sa mort, sera rouge et très, très gros. Actuellement, le Soleil nous apparaît à peu près de la même taille que la Lune. Pourtant, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune. Lorsque le Soleil sera une géante rouge, quelle taille fera-t-il? Et que verra-t-on depuis la Terre?
Ça, c'est une bonne question, en fait. Je n'ai pas la réponse. Mais on doit pouvoir calculer ça assez facilement.
Facilement, facilement. Je viens d'y passer mon dimanche. Sachant que le rayon actuel du Soleil est de 700 000 km environ, la circonférence du Soleil 2 fois pi fois r, donc 14 fois 3, 14, je rajoute les zéros et ça me fait à la louche 4,5 km, c'est le tour du Soleil, donc mais, ça sert à rien. Quand le Soleil se transformera en géante rouge, toujours à la louche, son diamètre passera à 200 millions de km, donc 200 suivi de 6 zéros, 200 divisé par 1,4, 142. Bref, j'ai retourné ça dans tous les sens et conclusion. Actuellement, je peux cacher le Soleil en tenant une petite cuillère à café à bout de bras. Quand le Soleil gonflera, qu'il atteindra un diamètre de 200 millions de kilomètres, il me faudra tenir un ballon de 60 cm de diamètre à bout de bras pour le cacher. À peu près la moitié du ciel sera occupée par le Soleil. Le Soleil sera un peu plus froid, mais il fera quand même 3000 degrés à la surface. Sortez votre crème solaire. Et pensez à prendre une gourde et un snack, parce que toute l'eau sur Terre se sera évaporée et qu'il n'y aura plus rien à manger.
Les conditions d'habitabilité vont beaucoup changer aussi, et probablement aussi qu'il va y avoir une déstabilisation dans le système solaire, parce qu'on aura cette étoile très très étendue, et donc modification, engloutissement de Mercure et probablement de Vénus, donc il y aura probablement une petite instabilité dans le système solaire.
Petite instabilité. En fait, on ne sait pas si la Terre va rester sur son orbite actuelle et se faire frire ou se faire manger par le Soleil ou si elle va réussir à s'éloigner du Soleil et éviter de se faire griller. On verra bien. « Le soleil va donc mourir par manque de combustible. Une fois que tout l'hydrogène contenu dans son noyau sera transformé en hélium, il va gonfler, nous griller au passage et s'éplucher, envoyer des atomes dans l'univers et se transformer en naine blanche.
Si vous voulez vous faire griller, appuyez sur 1. Si vous voulez mourir de soif, appuyez sur 2.
On sait que le soleil est en milieu de vie. Il a environ 4,5 milliards d'années. On l'a calculé en mesurant la radioactivité de certaines météorites. Mais comment est-il né? C'est quand l'anniversaire du soleil? Quel jour est-il né? Ah ben non, on ne peut pas savoir quel jour, puisqu'il ne faisait pas jour. Mais comment est-il né?
Alors, les étoiles se forment dans ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Donc, en fait, on est dans le milieu interstellaire. Dans le milieu interstellaire, la densité de la matière est très, très faible. Mais il y a des endroits où, pour des raisons qui sont encore mal comprises, la densité du gaz va être plus grande. Ces régions-là sont très froides, donc on peut avoir des molécules. Et c'est dans ces régions-là, dans ces nuages moléculaires, que vont se former les étoiles. Donc notre Soleil est né dans un nuage moléculaire comme toutes les étoiles de la galaxie et probablement de l'univers.
Dans un nuage qui ressemble genre à nos nuages à nous? Je pense pas.
Ces nuages sont très très grands. Vous pouvez en voir certains en fait. Vous pouvez regarder par exemple la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, c'est facile, hein. Vous pouvez sortir et regarder à l'œil nu cette nébuleuse. Mais en fait, si vous regardez dans d'autres longueurs d'onde, et en particulier dans des très grandes longueurs d'onde, on voit un nuage beaucoup plus grand que cette nébuleuse que l'on peut voir à l'œil nu. Et ça, c'est le résidu de ce nuage moléculaire à partir de laquelle se sont formées les étoiles de la nébuleuse d'Orion.
Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas le temps de sortir, je n'ai pas envie d'attendre la nuit et je n'ai pas envie de mettre des filtres de couleur sur mon appareil photo pour voir les différentes longueurs d'onde. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble cette nébuleuse d'Orion.
Alors ce que vous allez voir quatre étoiles massives au centre de la nébuleuse qui sont assez bleues, assez chaudes. Et puis ces étoiles, comme elles rayonnent beaucoup et qu'elles ont aussi des vents, elles sculptent en quelque sorte le nuage moléculaire autour. Ça fait un peu comme une cavité autour de ces étoiles massives. Et autour, on a des résidus du nuage moléculaire au sein duquel se forment peut-être encore des étoiles. Donc ces étoiles qui sont dans cette nébuleuse d'Orion, elles ont à peu près 2 à 3 millions d'années. Donc elles se sont formées beaucoup plus récemment. Après, vous pouvez aller voir d'autres images magnifiques de ces nuages moléculaires. Par exemple, vous pouvez taper « Pilier de la création » et « Nébuleuse de l'aigle ».
Pilier de la création et nébuleuse de l'aigle. Oh, dingue ! Une pépinière à étoiles.
Et là, vous verrez de splendides images faites par le télescope spatial Hubble. Vous verrez des grands nuages moléculaires sous forme un peu de stalagmites au sein desquels se forment des étoiles. Et ces nuages, vous verrez, sont vraiment sculptés par des étoiles massives qui se sont déjà formées et qui sont en train comme ça d'éroder ces nuages moléculaires et d'induire de la formation stellaire au cœur de ces nuages.
Je vous avoue, chère visiteureuse, que j'ai passé des heures à regarder ces images. C'est fascinant. Il faut savoir que notre Soleil n'est pas particulièrement grand ou petit. Il est de taille moyenne. Et le scénario de sa mort aurait pu être tout autre s'il avait été moins seul.
Dans la vraie vie, les étoiles, elles sont souvent par deux ou par trois. On estime à peu près entre 30 et 50% des étoiles sont des étoiles qu'on appelle binaires, donc qui vivent en couple. Et si une étoile a la chance d'avoir un compagnon d'une masse un petit peu différente, à la fin de sa vie, quand il sera naine blanche et que l'autre étoile arrivera à la phase géante, donc va gonfler, cette étoile va déposer de la matière sur sa compagne. Et ça, ça crée une forte explosion, ce qu'on appelle une supernova de type 1A, qui est en fait l'explosion d'une naine blanche à cause de l'accrétion de matière par son compagnon.
Et le sort des étoiles bien plus grosses que le Soleil est encore plus spectaculaire.
Si on parle d'étoiles seules qui n'ont pas de compagnon, Ce qui compte essentiellement pour l'évolution de l'étoile, c'est sa masse. Plus une étoile est massive, plus elle est lumineuse. Et plus elle est lumineuse, plus son temps de vie est court. Donc les étoiles massives vont vivre moins longtemps que les étoiles de petite masse. Si c'est au-delà de 8 masses solaires, à la fin de la combustion du carbone et de l'oxygène, la gravité va reprendre son jeu essentiel et le cœur va à nouveau pouvoir se contracter et s'échauffer. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer d'autres phases de combustion nucléaire. On va brûler le carbone et l'oxygène. Ensuite, on va avoir une phase de photodésintégration du néon et on va arriver à former un cœur de fer, en fait. À partir du fer, on ne peut plus faire de fusion nucléaire. Et donc, on va avoir le cœur qui va énormément se contracter et les noyaux vont devenir des neutrons. Sous l'effet de cette physique particulière quand l'étoile est très contractée, très compacte. Donc, on va avoir des étoiles à neutrons. C'est un peu l'équivalent de la naine blanche. Ou alors, on va avoir un trou noir. Ça va aussi dépendre de la masse de l'étoile. Mais ces étoiles de 8 masses solaires, avant de laisser l'étoile à neutrons, elles vont exploser en supernova, cette fois-ci de type 2. Et dans ces phases-là, il y a aussi des réactions nucléaires qui vont se produire dans l'enveloppe de l'étoile au moment de l'explosion de la supernova de type 2.
Il y a donc différents types d'étoiles. Les petites solitaires, comme la nôtre, finiront en naine blanche. Les petites en couple s'uniront avant d'exploser. Et les grosses exploseront aussi en supernova. Mais toutes ces explosions d'étoiles-là, c'est joli, hein? Mais ça peut nous affecter.
Il n'y a pas d'étoiles proches de nous qui risquent de nous poser des problèmes, à part le Soleil, mais ça, comme on l'a vu, dans très très longtemps. Par contre, le rêve de tout astronome stellaire, donc tout physicien stellaire, c'est de voir l'explosion d'une supernova très très proche, et puis aussi d'expliquer ce phénomène de supernova. Et en l'occurrence, il y a une étoile qui s'appelle Eta Carinae, qui est une étoile qui a régulièrement des pertes de masse très très importantes, de l'ordre de plusieurs masses solaires, elle fait comme des espèces de pulses, avec deux espèces de lobes de matière qui s'échappent de l'étoile. Elle est très très belle. Et en fait, c'est probablement l'étoile la plus proche de nous qui va bientôt exploser en supernova.
Quand?
Alors ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 100 000 ans, voire un petit peu plus selon les calculs, mais ça ne nous affectera pas du tout sur la Terre. Il n'y a pas de risque de voir des morceaux d'Eta Carinae apparaître sur la Terre ou en tout cas impacter la Terre, ça c'est quelque chose qui n'arrivera pas.
C'est rassurant, mais on la verra à l'œil nu?
Bien sûr, oui. On verra une étoile qui sera extrêmement brillante, ce qu'on appelle une supernova, c'est une étoile extrêmement brillante et nova, on appelait certaines étoiles les novae parce que c'était des étoiles qui apparaissaient brusquement dans le ciel, en fait. On ne les avait jamais remarquées à l'œil nu, en fait, parce qu'elles étaient, pendant leur évolution, trop faibles, pas assez lumineuses pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Et d'un seul coup, elles apparaissaient dans le ciel, donc on les appelait des novae. Mais en fait, le terme dont vous voyez n'est pas correct, ce sont des étoiles plutôt en fin de vie plutôt qu'en début de vie.
Vous avez remarqué, vous, les étoiles doubles finissent leur vie ensemble en une seule supernova. Les étoiles grosses sont en mode 2. Une supernova, c'est en fait une vieille étoile. Si vous vous y perdez, ce n'est pas grave. Notre Soleil et ses copines, les étoiles, doivent encore nous révéler beaucoup de secrets. Et les scientifiques sont prêtes et prêts à demander la Lune pour comprendre le Soleil.
Quand vous regardez les images de l'alunissage en juillet 1969, et que vous les regardez très attentivement, à un moment donné, on voit Aldrin et Armstrong qui sont en train de déployer le drapeau américain. Si vous faites pause sur image à ce moment-là, vous verrez à l'arrière comme un bâton qui est posé à l'arrière. Et en fait, il se trouve que sur ce stick était attachée une feuille d'aluminium, et cette feuille d'aluminium, l'objectif, c'était de collecter les particules du vent solaire. À l'époque, c'était pour comprendre la composition de certaines météorites, parce que la personne qui a inventé cette manip, c'était le professeur Johannes Geiss de l'Université de Berne, qui avait eu cette magnifique idée. Cette expérience, il fallait la mettre sur la Lune le plus tôt possible et la laisser le plus longtemps possible pour pouvoir collecter un maximum de particules vent solaire. C'est pour ça qu'Aldrin l'a mis sur la Lune avant qu'il ne déploie le drapeau américain.
Et la feuille d'aluminium a été soigneusement roulée et rapportée sur Terre à Berne. On ne l'a pas utilisée pour emballer un sandwich. On a analysé les particules de vent solaire piégées dans la feuille. Et là,
ça a permis de comprendre un certain nombre de choses sur la composition de certaines météorites. Ça a permis aussi de comprendre des choses sur les éléments qui sont fabriqués au cours du Big Bang. En particulier l'hélium-3, qui est un élément qui est à la fois fabriqué au cours du Big Bang et dans les étoiles. Et en fait, à l'époque, en 1970, on pensait qu'il y aurait beaucoup d'hélium-3 dans le Soleil, à cause de la contamination par des générations précédentes d'étoiles. Et en fait, on en a trouvé très très peu. Et ça, ça posait un gros problème à la fois à la physique des étoiles, à la nucléosynthèse qui se produisait dans le Big Bang, et puis à la compréhension de l'évolution chimique de l'univers.
Parce qu'en science, une réponse amène toujours une question. En gros, on calcule combien d'hélium-3 notre Soleil est censé nous envoyer dans le système solaire. On pose une feuille d'alu sur la Lune, on attend 77 minutes et on vérifie si le calcul joue. Et zut, ça ne joue pas. Et ce n'est même pas une erreur de virgule.
Je suis assez fière de dire que c'est avec une de mes étudiantes en thèse, qui s'appelle Nadège Lagarde, que nous avons résolu ce problème de cet hélium-3 manquant, en fait, en prenant en compte dans nos modèles d'étoiles un mécanisme que l'on retrouve dans les océans qui s'appelle le mélange thermohaline. Cette grande circulation d'eau au sein des océans, elle est due à des variations de température et de salinité. Alors, dans le Soleil, on n'a pas de sel, mais on a des éléments qui sont plus lourds ou plus légers que l'autre. Et puis, on a aussi des variations de température qui permettent d'induire le même mécanisme. Et en introduisant ça dans nos modèles stellaires, on a pu résoudre cette énigme de l'hélium-3 qui avait été posée au moment de la première mission Apollo. Cette expérience, elle a été répétée d'ailleurs à toutes les missions Apollo successives qui ont eu lieu. Et donc, j'aime bien dire que de la Suisse à la Lune, on a posé un problème. Et puis ensuite, de la Lune à la Suisse, on a résolu le problème aussi en Suisse.
Il y a le ciel, le soleil et la mer qui a permis aussi de résoudre une partie des mystères de notre univers. L'hélium-3 circule dans le soleil de la même manière que les éléments chimiques circulent dans les eaux des océans. Il est poussé vers le centre du soleil en raison de sa masse et de la température différente entre la surface et le cœur du soleil. C'est pour cela que le soleil expulse moins d'hélium-3 que prévu par calcul. Il est temps pour nous de prendre congé de Corinne Charbonnel, mais pas du Soleil. Mon vieux pote de 4,6 milliards d'années sera encore là longtemps. Donc, entre-temps, abonnez-vous à Microsciences sur Spotify, Apple Podcasts ou Play RTS.
Pourquoi l'odeur de cannelle fait palpiter ma mémoire? Jusqu'où va le ciel? Ma grand-mère influence-t-elle ma vie? Les animaux se cultivent-ils? Pourquoi je joue sur mon téléphone portable? Suis-je conne? Qui m'enverra la prochaine question de Microsciences?
Et si vous avez des questions solaires, lunaires ou en l'air, envoyez-les-moi sur microsciences@rts.ch, microsciences en un seul mot et au pluriel. Ils sont tout aussi fidèles et rassurants que mon soleil. Grégoire Moll, de l'Hydrogène en barre, coproducteur atomique, et Jérôme Nussbaum, fusionneur de sons, de musique et de textes. Je suis heureuse de notre système à 3 étoiles. Mais je ne sais pas si vous aussi, vous êtes un peu triste de savoir que le soleil est solitaire.
Dans le système solaire, il y a une très grosse planète qui s'appelle Jupiter. Alors, on ne sait pas encore exactement comment Jupiter s'est formé. On a plein de théories. Et puis, en fait, il aurait été possible que Jupiter, s'il y avait eu un petit peu plus de matière dans la nébuleuse protosolaire, que Jupiter soit aussi une étoile. En fait, on utilise quelquefois, c'est peut-être un terme un peu usurpé, mais on dit quelquefois que Jupiter est comme une étoile ratée. Et donc, on aurait pu avoir 2 soleils dans le système solaire.